et vous avez le pied au niveau de la chaussure. On reste dans le cadre d'une finale, je n'en veux plus. C'est clair ?
Voilà. Non, je n'ai pas touché.
C'est déjà
non.
Salut tout le monde, c'est Abdallah, j'espère que vous allez bien parce que moi je pète la forme et je dois vous dire que je suis impatient que vous écoutiez cet épisode de Banquette avec un invité qui, comme moi, pète la forme malgré la tournure qu'a pris sa vie. Pour ce 27e épisode, j'ai eu l'honneur de recevoir une star dans son sport, Yvan Wundji, véritable maestro du cécifoot et également doté d'une immense force de caractère. Le cécifoot, pour ceux qui ne savent pas, est un football pour athlètes malvoyants ou non-voyant. En plus, il s'exprime super bien, comme quoi les footballeurs ne parlent pas que la langue de bois. Allez, trêve de blabla, Banquette épisode 27, c'est maintenant. Salut Yvan.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va, ça va.
Bah, content de t'avoir avec nous dans Banquette. C'est vraiment génial de pouvoir parler de cécifoot dans un podcast consacré au foot.
Pareil, c'est un plaisir pour moi d'être à vos côtés aujourd'hui et je vous remercie encore une fois pour l'invitation.
Bah écoute, il n'y a pas de quoi, on va commencer directement. Avant de parler déjà du cécifoot, on va parler de tes débuts dans le football. J'ai lu dans une interview que tu jouais déjà au foot quand tu étais voyant. Tu jouais à quel poste ?
Alors, lorsque j'étais voyant, effectivement, je jouais déjà au foot, donc étant petit, et j'étais en défense. J'étais plutôt défenseur central. Et en grandissant, j'ai toujours aimé ce poste-là. Mais ayant perdu la vue, j'ai évolué à d'autres postes. Mais mon poste de base, c'est défenseur central.
Et à l'époque, c'était quoi les équipes que tu suivais, les joueurs que tu admirais ?
Je suivais pas mal le Real Madrid. C'était durant la période des Galactiques, notamment avec Zidane, avec Roberto Carlos. Je suivais aussi un petit peu Manchester United aussi, qui marchait bien avec Ryan Giggs, avec Paul Scholes. Voilà, le foot un petit peu d'avant.
C'était quoi tes joueurs préférés ?
J'aimais bien Zidane, c'est vrai. J'ai le souvenir souvent d'avoir regardé les matchs du Real le dimanche soir quand on attendait tous l'émission L'équipe du dimanche. Mm-hmm. Et Zidane m'a souvent marqué, notamment à travers ses actions, ses gestes chaloupés. Et j'ai également pas mal de souvenirs avec la Juventus, avec Trezeguet qui marquait pas mal, avec Del Piero. Voilà, c'est des joueurs un petit peu que j'ai toujours gardé un petit peu comme modèle. Gabriel Batistuta, la Roma, c'est un joueur qui m'a vraiment marqué parce qu'il marquait énormément de buts. Il était très adroit, très altruiste. Inzaghi au Milan, voilà, toute cette époque-là avec ses grandes gloires du football.
Voilà, tu ne cites que des joueurs qui ont joué à l'étranger, des grands clubs, la Juve, le Barça, Manchester. Aucun club français, c'est normal ?
Je dirais un petit peu le PSG avec Paoletta, un petit peu, voilà, il n'y a pas très longtemps, récemment. Mais c'est vrai que je cite plus les clubs étrangers parce qu'au Cameroun, donc je suis né au Cameroun et j'y ai grandi, j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans. Mais on suivait beaucoup le foot européen, mais pas spécifiquement français. On suivait plus les grosses équipes européennes. On n'était pas forcément focalisé sur le championnat de France. Même si on suivait un petit peu, je me rappelle de Franck Leboeuf quand il jouait à Marseille, Djibril Cissé à Auxerre. C'est vrai que je suivais beaucoup Auxerre à l'époque. Cissé, Giroud, Mexès, voilà, toute cette équipe d'Auxerre, c'est vrai que je la suivais un petit peu plus en France. Mais davantage les clubs européens, les clubs italiens, espagnols, anglais.
Donc, à 10 ans, tu perds la vue à cause d'un décollement de la rétine. À ce moment-là, dans quel état d'esprit, comment tu vis cette épreuve ?
Alors, cette épreuve-là, à l'âge de 10 ans, je l'ai vécue telle qu'elle. Je l'acceptais, comme elle l'est venue. Et pour moi, c'était toujours pareil. Je n'ai pas réellement ressenti de changement. Je n'ai pas vécu un changement, une modification dans ma vie quotidienne. Pourquoi ? Parce qu'à l'âge de 10 ans, comme je dis souvent, je faisais toujours les mêmes choses. Mes activités restaient les mêmes. C'est-à-dire que même j'adorais suivre le foot à la télévision. Bon, bah, je ne le voyais plus, le foot. J'avais plus accès aux images, mais j'écoutais les matchs. J'aimais bien manger. Je voyais plus ce que je mangeais, mais je mangeais pareil. J'avais toujours le même contact avec mes amis, avec mes proches. C'est-à-dire que le fait d'avoir perdu la vue n'a pas eu d'impact réel à l'âge de 10 ans dans mon quotidien. Donc je ne me rendais pas réellement compte, je ne faisais pas la différence, si vous voulez, dans ma vie quotidienne entre le moment où je voyais et le moment où je ne voyais plus. Mais Je dirais que j'ai davantage pris conscience de mon handicap et de ma déficience visuelle à l'adolescence, à l'âge de 15-16 ans, lorsqu'on grandit, lorsqu'on se pose un petit peu de questions sur notre parcours, sur la suite, sur l'avenir. Et à ce moment-là, je me posais des questions, je me disais pourquoi je suis non-voyant, qu'est-ce qui s'est passé. Je m'interrogeais plus et je me disais, forcément, à cet âge-là, on veut avoir des petites copines, voilà, on veut avoir une vie comme n'importe quel adolescent. Et je m'interrogeais en me disant, est-ce que j'ai envie de sortir avec une fille. Est-ce que si elle me dit non, si elle ne souhaite pas s'engager avec moi, si elle ne souhaite pas se mettre en couple avec moi, est-ce que c'est réellement parce que je ne lui plais pas, ou est-ce qu'elle va me dire non en raison de mon handicap? Donc on s'interroge plus quand on est adolescent et qu'on a, on a une déficience visuelle. Du moins, moi, je me suis un petit peu interrogé. Mais j'ai su un petit peu répondre à mes interrogations, donc parce que j'étais bien entouré, parce que j'avais une famille qui était vraiment à mes côtés et qui est toujours à mes côtés, donc mes proches, l'école, les études, ça m'a beaucoup aidé. Le fait d'avancer dans les études, ça m'a permis de prendre davantage confiance en moi et prendre conscience que voilà, j'étais un être comme les autres et que j'avais des qualités, des défauts comme tout le monde, et que mon handicap n'était pas un défaut et que c'était pas une difficulté supplémentaire. C'est juste un obstacle en plus, mais qu'il faut juste apprendre à vivre avec, à contourner et à passer au-dessus de l'obstacle.
Est-ce que le fait d'accepter ton handicap, tu le dois aussi au fait d'avoir été dans une école spécialisée ?
Absolument, parce que lorsque j'ai perdu la vue, donc je suis venu en France, donc j'ai subi une opération, on a essayé de recoller ma rétine, donc j'ai perdu la vue d'un coup, donc j'ai commencé à voir flou durant une après-midi, puis plus du tout. Et ayant perdu la vue, j'ai eu la chance que mes parents aient suffisamment de moyens pour me faire venir en France pour que je subisse une opération. Donc l'opération n'a pas marché. Effectivement, j'ai été dans cette école-là pour les malvoyants et pour les non-voyants qui s'appelle l'INJA, Institut National des Jeunes Aveugles. Donc c'est à Paris, c'est à côté de Montparnasse, au métro du Roc. Et effectivement, dans cette école-là pour les malvoyants et les non-voyants, donc on était très bien encadrés. J'étais bien encadré et j'ai pu prendre mon envol petit à petit en apprenant que voilà, le handicap, bah, il existe, et vivre avec.
Et justement, dans cette école, tu te familiarises pour la première fois avec le cécifoot. Quelles étaient tes premières impressions quand tu découvres que tu pouvais jouer au foot en étant malvoyant ?
Ou non-voyant.
Non-voyant, pardon.
Sachant que moi, je suis non-voyant, donc je vois rien. Je vois pas les couleurs, je vois pas les ombres, je vois rien. J'ai pas de reste visuel. Par contre, on sent les choses. Par exemple, un non-voyant, quand il va arriver dans la rue, par exemple, s'il y a un arrêt de bus qui est à, s'il y a un abri de bus qui est à moins d'un mètre de lui, vous allez souvent voir un non-voyant se déplacer avec sa canne et il va contourner l'abri de bus. Alors, il n'aura pas vu l'abri de bus, mais il aura ressenti une masse, un gros poteau ou un camion, on va contourner l'obstacle. On ne saura pas vous dire si on a contourné un camion ou un abri-bus ou un gros truc volumineux. Par contre, on aura senti quelque chose. Donc, un non-voyant a ce qu'on appelle une sensation des masses. Donc, on ressent les choses. On ne voit pas, mais on ressent. Et effectivement, quand j'étais petit, je jouais au foot. J'étais passionné. Et lorsque j'ai perdu la vue, je ne savais pas du tout qu'on pouvait avoir un handicap et faire du sport. Je l'ignorais complètement. Et effectivement, dans cette école-là, j'ai fait la rencontre de Julien Zelela, qui est non-voyant. C'est lui qui a développé le cécifoot en France. Il le développe depuis 30 ans. Il est directeur technique national en équipe de France de cécifoot. Et il est président du club de Saint-Mandé, club dans lequel j'évolue. Et effectivement, c'est à travers lui que j'ai découvert le cécifoot. Donc football adapté pour les malvoyants et pour les non-voyants.
Et quand tu découvres ce sport, quelles étaient tes premières sensations, tes premières impressions ?
Ah, pour être sincère avec vous, Abdallah, je n'y croyais pas. J'étais vraiment enthousiasmé. J'étais très enthousiaste, j'y croyais pas. Je me disais, mais c'est pas possible. Comment les gars font pour ne pas voir et jouer au foot et jouer aussi bien ? Et je me souviens, sur les premières fois que j'étais au bord du terrain, donc évidemment, je ne jouais pas, mais j'étais à l'écoute de ceux qui jouaient, donc des joueurs. J'étais à l'écoute des encadrants et je trouvais ça vraiment magnifique, le fait de surpasser son handicap et le fait de jouer et de bien jouer. C'est pas juste jouer au foot, c'est de bien jouer au foot et de pouvoir donner du plaisir, transmettre du plaisir aux autres, transmettre cette joie de jouer au foot, montrer aux gens vraiment que le foot a une portée universelle, une portée vraiment qui est au-delà vraiment des espaces, des frontières, Le foot, vraiment, ça transcende vraiment les êtres humains. Et moi, je me souviens, au bord des terrains, j'étais vraiment enthousiaste et j'avais les jambes qui... J'avais des fourmis dans les jambes. J'avais juste une envie.
C'était de jouer.
C'était de jouer, absolument.
Est-ce que tu peux nous expliquer comment se joue le CC-Foot ? Je pense que ce n'est pas évident pour tout le monde de connaître les règles de cette discipline.
Tout à fait, Abdelahir. Tout à fait. C'est vrai que c'est pas... tout le monde ne connaît pas les règles de ce sport-là. Donc... Alors, ça se joue sur un terrain de dimension on-ball. Donc, ça se joue soit sur du synthétique, soit sur de l'herbe. On joue avec une cage de on-ball, donc avec une petite cage. Donc, c'est du 5 contre 5. Si vous voulez, c'est un petit peu comme du futsal. C'est une adaptation du futsal, mais on ne joue pas en intérieur. On s'entraîne en intérieur parce qu'il y a des infrastructures dans les urban foot ou dans les five qui se rapprochent réellement des infrastructures sur lesquelles on joue quand on joue en extérieur. Donc, c'est du 5 contre 5. Au niveau de la longueur du terrain, il y a une barrière de chaque côté, donc qui mesure à peu près 1,50 m de hauteur. Et la barrière, donc de chaque côté du terrain, imaginez donc du corner au corner et du corner au corner. Au niveau de la longueur, donc il y a une barrière qui est comme on parle de boudin. Donc c'est un peu comme une bouée. C'est la même matière qu'une bouée en natation. Donc c'est en plastique et ça permet d'encadrer le terrain. Ce qui veut dire que le ballon reste toujours en jeu. Et le ballon ne sort que lorsqu'il passe au-dessus de la barrière. Et le ballon ne sort que lorsqu'il est entre le corner et le but. Donc, quand le ballon va en 6 mètres, il y a 6 mètres. Il n'y a pas la barrière au niveau entre le but et le corner. Par contre, entre le corner et le corner, au niveau de la longueur, il y a la barrière. Donc, le ballon reste toujours en jeu. Et il y a cette barrière-là pour qu'on puisse savoir où est la limite du terrain. Parce que si on joue sur un terrain classique, avec les tracés par terre, on les voit pas les tracés par terre. Donc on a besoin de matérialiser les contours du terrain. Donc c'est pour ça qu'on joue avec cette barrière-là qui est au niveau de la longueur de chaque côté. Donc c'est du 5 contre 5. Seul le gardien de but voit. Il n'a pas de problème visuel du tout. Il n'est pas malvoyant ou il n'est pas non-voyant, donc il est voyant. Il a une petite surface de 2 mètres, vraiment comme dans le futsal. Et les 4 joueurs de champ de chaque équipe, on a tous un bandeau sur les yeux parce que parmi nous, il y a des malvoyants et des non-voyants. Donc le bandeau permet à tout le monde d'être à égalité. Donc le terrain est entre guillemets divisé en 3 zones. Le gardien de but, il n'a le droit de parler qu'à ses défenseurs. Le coach, il est situé au niveau du milieu de terrain sur le côté, au niveau de la ligne médiane, il n'a le droit de parler qu'aux joueurs du milieu. Et derrière le but adverse, derrière le but, on doit marquer. Ça, c'est un élément fondamental du CC-Foot. Il y a un guide. C'est quelqu'un qui voit, il est derrière le but adverse, derrière le gardien de but adverse, et il est dans l'axe, il voit. Il a pour objectif de guider les attaquants, il nous oriente. Donc si moi je suis en attaque par exemple, le guide, il ne va pas me dire « Yvan, va à gauche ou va à droite ». Il va me dire « Yvan, tu es à 12 mètres du but, tu es à 13 mètres, tu as un défenseur devant toi, tu en as deux ». Donc il est là vraiment pour donner des éléments, des informations qu'on n'a pas le temps de capter lorsqu'on joue en écoutant. Parce que ça va vite, parce qu'il y a de l'enjeu, parce qu'il y a du stress, parce qu'il y a plein d'éléments. Ça reste un match de foot, mais il est là pour nous donner des infos qu'on ne voit pas sur le terrain parce qu'on est non-voyant. Et il nous donne des infos qu'on n'a pas le temps de capter sur le moment. Dans le ballon, il y a des clochettes, il y a des grelots. Du coup, lorsqu'il roule, on l'entend sur le terrain. Donc, il y a deux arbitres. Il y a un arbitre de chaque côté du terrain. Évidemment, les arbitres sont voyants et ils arbitrent... de manière classique, hein, comme dans le football classique, comme dans le football à 11. Il n'y a pas de hors-jeu, évidemment, vu qu'on ne voit pas. Et le gardien, il n'a pas le droit de sortir de sa surface de 2 mètres, parce que s'il avait le droit de sortir, ce serait trop facile pour lui, il pourrait venir nous prendre la balle dans les pieds. Ensuite, il faut savoir que nous, comme nous ne voyons pas le ballon, on ne le pousse pas, parce que plus on pousse la balle, si on joue comme les voyants, en poussant le ballon, même s'il fait du bruit, on aurait tendance à le perdre facilement et rapidement. On aurait tendance à se le faire intercepter. Donc, au CC-Foot, on garde toujours le ballon entre les pieds. Et nous, dans le CC-Foot, on garde le ballon proche de nos pieds.
Et ça explique pourquoi tu as cette conduite de balle tout en double contact. C'est un peu ta marque de fabrique.
Absolument, ouais. C'est vrai qu'il y en a qui ont une conduite plus ou moins développée. Après, selon le niveau technique de chacun, comme dans le football classique. Et effectivement, oui, ma marque de fabrique, c'est que je garde bien le ballon entre les pieds. J'ai une bonne... capacité de conservation et je suis aussi rapide balle au pied.
Je voudrais déjà revenir sur tes premiers pas dans ce sport. Quand tu débutes le CC-Foot, est-ce que tu t'épanouis directement ? Est-ce que tu sens que tu peux être performant ?
au départ, pas réellement. Disons que j'étais vraiment encore dans une phase d'apprentissage. J'arrive dans une phase de formation. Sachant que dans le CC Foot, on n'a pas de centre de formation, on n'a pas forcément le temps de former les jeunes. Mais du coup, j'ai dû me former sur le tas en jouant avec des joueurs plus âgés que moi. Et c'est vrai qu'au début, non, j'étais plus dans de l'écoute, non, de l'analyse. Parce que petit à petit, ce que je retiens de ce sport-là et ce dont on m'a appris aussi, ce que j'ai appris de ce sport-là, c'est que c'est un sport où savoir bien jouer, c'est pas l'élément le plus important. Je dirais que c'est 50% du travail. Mais un bon joueur de CC Foot, c'est pas qu'un joueur qui est bon, balle au pied. C'est pas qu'un joueur qui sait faire des dribbles, des crochets, non. C'est un joueur qui sait écouter. Et c'est un joueur qui sait prendre les bonnes informations. Parce que sur le terrain, il y a plusieurs infos qui sont données. Et c'est un joueur qui sait dissocier les informations, qui sait prendre celles qui l'intéressent et qui sait en faire bon usage. Et au début, j'ai vraiment appris à faire ça, vraiment appris à déjà savoir jouer les yeux fermés, parce qu'il y a quand même des adaptations, parce que contrairement au football valide, on se parle beaucoup plus, il y a plus de communication, du coup il y a une solidarité qui se crée spontanément et naturellement. Et donc au début, j'étais plus dans l'écoute, dans le fait d'écouter ce que les autres joueurs faisaient et j'essayais de m'inspirer des meilleurs et des autres. Pour voir ce qu'il faisait et pour voir ce qu'il faisait, ce qui marchait.
Il t'a fallu combien de temps pour te dire là vraiment je suis bien là, je suis un bon joueur de CC Foot?
Je me suis senti à l'aise assez rapidement, je dirais au bout d'un an, je me sentais assez à l'aise parce que j'étais bien entouré, parce que j'étais. Je dirais que rapidement j'ai eu pas mal de compliments, pas mal d'éloges de la part de mes coachs, de la part de mes coéquipiers qui m'ont tout de suite mis en confiance et tout de suite mis à l'aise. Et c'est vrai que on m'a rapidement fait confiance et on m'a rapidement fait comprendre que j'avais mon mot à dire dans ce sport-là et que je pourrais être un élément potentiellement intéressant pour mon club. Donc sachant que j'ai commencé à l'AVH qui est un deuxième club dans la région parisienne. Et donc quand j'ai commencé à l'AVH, on m'a fait comprendre que je pourrais être un élément important de l'équipe. Mais pour ça, il fallait d'abord que je me forme.
Et justement, tu deviens vite très fort puisque tu rejoins l'équipe de France en 2010. Ça fait quoi de jouer pour l'équipe nationale ?
C'est pas forcément facile à expliquer et à exprimer les sensations que j'ai eues au départ et que j'ai toujours au jour d'aujourd'hui. Mais c'est quelque chose de particulier. Je me sens privilégié. C'est une chance de pouvoir jouer pour sa nation, de pouvoir porter haut. Voilà, les couleurs bleu, blanc, rouge, c'est un privilège et c'est une chance que je savoure tous les jours. Et au début, je ne m'y attendais pas. Franchement, c'était une surprise.
Ça s'est fait comment, justement ? Raconte-nous.
Alors, donc, j'ai commencé à jouer les matchs de championnat donc en saison 2009-2010. Et donc, il y avait le sélectionneur de l'équipe de France qui venait, du coup, qui était entraîneur dans un club et qui tournait évidemment, enfin, également sur les autres matchs, qui venait observer les autres matchs. Et il m'a fait comprendre, pas que lui, mais d'autres m'ont fait comprendre que j'étais potentiellement sélectionnable en équipe de France. Donc, en m'ayant vu jouer sur plusieurs matchs, après, j'ai été sélectionné en équipe de France et j'ai fait ma première compétition en août 2010 lors de la Coupe du Monde en Angleterre. Et c'était particulier de me dire que je suis sélectionné en équipe de France. Ça a été, c'était une joie évidemment inexprimable et vraiment, c'était vraiment quelque chose de formidable. J'en étais extrêmement heureux. Ma famille également, mes proches, mes parents étaient très heureux pour moi. Et j'étais à la fois content et à la fois un petit peu stressé parce que c'est un défi supplémentaire et jouer pour une équipe nationale, ça fait qu'on change de statut et ça fait qu'on prend plus d'épaules, plus de galons. Donc, ça demande aussi qu'on ait une image, qu'on véhicule un message. On devient également, on prend une envergure particulière dans la société. Et
tu l'as senti ce changement, vraiment ?
Ouais, je l'ai senti, oui. Je l'ai senti. Pas forcément tout de suite, mais à force de faire des compétitions, à force de jouer pour l'équipe de France, j'ai senti déjà qu'autour de moi, j'avais que j'avais un impact différent. Je me sentais davantage considéré, même si je l'étais auparavant déjà beaucoup. Et j'ai senti, oui, que j'avais une place particulière dans ma famille, que ce soit au Cameroun ou ici. Et j'ai senti, oui, que j'avais une image à véhiculer et que j'avais un statut qui était différent et que voilà que j'étais davantage écouté, suivi et que j'étais beaucoup beaucoup soutenu par les gens.
C'est vrai qu'on peut dire que tu es un des joueurs vedettes du CC Foot. Pour comparer un peu avec le football à 11, t'es un peu le Pogba ou le Griezmann de l'équipe de France. C'est un peu en termes de notoriété, on est un peu là, non?
Je pense que si je suis aussi soutenu, suivi, c'est parce que je pense être quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui, sur le terrain, je suis pas un tricheur, je donne toujours à 100%, je me bats. Je suis quelqu'un de vrai, de sincère et de spontané. Et j'aime beaucoup le foot et j'essaie de, sur le terrain, de donner du plaisir aux autres. J'essaie de toujours être bien avec mes coéquipiers, avec mes partenaires. Et je pense que les gens le ressentent et ils voient que... Hein, que je suis quelqu'un de sincère, de spontané. Je ne suis pas un tricheur. Et quand je joue, je donne à 100%. Et quand je rentre sur un terrain, c'est d'abord jouer au foot et je ne calcule pas plus. Voilà, jouer, donner du plaisir et en prendre. Montrer aux gens, parce que moi, j'interviens beaucoup dans les écoles également pour faire découvrir le CC Foot et inciter nos jeunes à faire du sport et montrer à nos jeunes, à la jeunesse, qu'on a besoin d'eux pour la suite, dans l'avenir. Qu'on a besoin d'intégrer les personnes voyantes dans le CC Foot. On a besoin de leur faire comprendre que notre handicap, c'est pas notre faiblesse et qu'on peut être non-voyant et faire du foot comme les autres. Et j'essaie également de dire aux autres que voilà, être non-voyant, c'est une chance. Moi, si demain on me dit de retrouver la vue, je dirais non. Parce que mon handicap m'a montré tellement de choses, il m'a ouvert tellement de portes. Je dirais que mon handicap, paradoxalement, m'a ouvert les yeux. Et ça m'a fait comprendre que l'être humain, il n'y a pas un prototype d'être humain, il n'y a pas un profil d'être humain.
Et tu parlais de donner du plaisir aux gens. Et en parlant de plaisir, on va remonter en 2015 avec une action qui a fait le tour du monde sur Internet. Tu marques un but de folie, on peut le dire, c'est vraiment un but de folie. Conduite de balle, donc double contact, grosse frappe. Et là, tu sautes de joie. Est-ce que tu peux nous raconter ce but? Comment toi, tu l'as vécu? Est-ce que, sur le coup, tu te dis, là, vraiment, est-ce que tu te dis vraiment, voilà, je me suis fait un kiff et les gens vont kiffer? Ouais.
Effectivement, donc, je jouais avec l'équipe de France. On jouait à Schiltigheim, à côté de Strasbourg. On jouait contre l'Allemagne. Donc, j'étais en défense. Il restait 3 minutes de jeu. Et le gardien de but français, donc notre gardien, il a récupéré la balle et il m'a fait une passe sur le côté droit en défense. Donc, je récupère la balle et effectivement, donc j'ai avancé, j'ai dribblé toute l'équipe allemande. Et effectivement, je suis arrivé devant le but allemand, devant le gardien allemand. J'étais à peu près à 8 mètres et j'ai tiré. J'ai fait un tir croisé sur la gauche, sur la droite du gardien. Non, sur ma gauche à moi, pardon, et sur la droite du gardien, effectivement... J'ai marqué un but déjà qui a délivré l'équipe parce qu'on a remporté le match. Donc, on a décanté la situation, on a ouvert le score à 3 minutes de la fin. On a gagné 1-0. Et pour être sincère avec vous, Abdallah, sur le moment, je savourais juste le but en fait. Et je ne me rendais pas du tout, mais vraiment pas compte de ce que je venais de réaliser comme action.
Quand tu savoures le but, vraiment, tu le savoures. Parce que
je savoure.
Tu sautes dans tous les sens, tu vas dans les bras de tes coéquipiers, c'est incroyable.
Tout à fait. Je le savoure. Et le but a autant marqué les gens que ma célébration juste après. Je savoure parce que je suis content, parce qu'il reste peu de temps, parce qu'on s'est battu tout le match, on s'est accroché, c'était dur, c'était rugueux, il y avait de l'impact. Franchement, il y avait un réel combat physique, comme dans tous les matchs de CC Foot. Comme dans tout match de foot. Et j'étais content parce que c'était vers la fin. Et c'était. Franchement, j'étais content de marquer à peu de temps avant la fin du match.
Et maintenant, on va parler un peu de l'équipe de France. On va parler des choses qui fâchent un peu, de l'Euro 2017. Donc, c'était la compétition il y a quelques mois. Les 3 premières places étaient qualificatives pour le Mondial 2018. Et vous finissez 4e. Qu'est-ce qui s'est passé ?
On a été effectivement à l'Euro à Berlin en août 2017. Là, en août, on a fini quatrième de la compétition, sachant qu'on espérait terminer sur le podium. On a perdu en demi-finale contre la Russie, alors qu'on menait deux fois au score. On s'est fait rejoindre sur le fil, on a fait 2-2. Et on a perdu malheureusement au tir au but et on a terminé quatrième du tournoi. Et on a quand même réussi à se qualifier pour le mondial. On est qualifié pour la Coupe du Monde de Cécifoot qui a lieu l'année prochaine, en juin 2018 à Madrid, du 5 au 17 juin. C'est vrai qu'au départ, la règle, c'était que...
Les trois premiers.
C'était que les trois premiers. Mais là, on a appris durant la compétition que pour le mondial en 2018 à Madrid, il y aurait plus d'équipes, il y aurait 16 équipes. Donc ce qui est bien, ça prouve qu'il y a de plus en plus d'équipes nationales qui se créent, il y a de plus en plus de championnats qui se créent, parce qu'Abdallah, malheureusement, il faut encore le dire au jour d'aujourd'hui, c'est pas tous les pays dans le monde qui ont une équipe nationale et qui ont un championnat national, mais ça se développe de plus en plus.
Et justement, comment faire pour rendre ce sport, si je peux me permettre l'expression, encore plus visible? Mais comment faire pour qu'il y ait encore plus d'engouement, notamment en France? Est-ce que ça passe par la création de sections handisport dans les clubs pro, par exemple?
Absolument. Un petit peu, je dirais qu'on a, à titre de comparaison, on a un petit peu le même profil que le football féminin. C'est-à-dire que les gens commencent à prendre conscience que c'est un réel sport, il y a de l'engouement, il y a de l'intérêt, il y a de la passion et que ça reste vraiment du sport, du foot. Comment développer le Cécifoot, Abdallah? Alors, déjà, en intervenant davantage dans des écoles spécialisées où il y a des malvoyants et des non-voyants.
Pour ce que tu fais.
C'est ça. Mais je le fais beaucoup plus dans les écoles valides. Mais on devrait axer davantage notre travail sur les écoles spécialisées parce que malheureusement, il y a encore beaucoup de malvoyants et non-voyants. Vous allez être surpris, Abdallah, mais il y a beaucoup de malvoyants et non-voyants qui ne savent même pas que le Cécifoot existe. Donc, c'est souvent dans des villes un petit peu, pas très peuplées, dans des villes où il n'y a pas beaucoup d'activités. C'est pas comme à Paris où, voilà, généralement, quand on est non-voyant et quand on vit sur Paris, très facilement, on peut savoir que le Cécifoot existe. Mais ceux qui habitent dans des villes un petit peu reculées, bon, bah, à côté, il n'y a pas forcément de structure adaptée, il n'y a pas forcément de structure handisport. Donc, intervenir davantage dans des villes, intervenir davantage dans des écoles spécialisées pour dire aux jeunes que le handisport existe, qu'ils peuvent avoir un handicap et faire du sport, qu'ils peuvent être non-voyants et faire du foot, et qu'ils peuvent être tout à fait compétents, tout à fait bons, et qu'ils peuvent prendre du plaisir et que leur handicap ne sera pas du tout une contrainte, au contraire, et surtout, Abdallah, leur faire comprendre que ça, c'est la jeunesse de demain, et que demain, s'ils travaillent, s'ils sont acharnés, s'ils sont férus de foot ou pas d'ailleurs, ils peuvent avoir leur chance de jouer en équipe de France, pourquoi pas, et que c'est une chance qui peut leur être accessible, qui peut leur être donnée, s'ils prennent conscience que le foot peut leur correspondre. Il ne faut pas oublier que récemment, on a eu l'obtention des Jeux paralympiques et olympiques de 2024. Et effectivement, il y aura forcément du Cécifoot. Et vous le savez, j'imagine tout naturellement que l'équipe de France est qualifiée automatiquement.
Est-ce que pour toi, justement, les Jeux de 2024, c'est un objectif?
Oui, pas que, mais c'est un objectif, bien sûr, de jouer en France, de jouer devant ses proches, faire découvrir davantage le Cécifoot aux Français. Et c'est une chance, c'est quelque chose que j'attends avec grand plaisir, qu'on ait une belle équipe qui soit là sur le terrain, voilà, qu'il y ait des émotions qui soient transmises, et que je sois sur le terrain ou pas, même si effectivement je suis un compétiteur et je suis encore jeune, et j'aurai 31 ans en 2024, donc je serai encore dans la force de l'âge, et j'espère... Voilà, être toujours aussi acharné, et j'espère avoir ma chance et j'espère être en forme en 2024 pour jouer. Déjà, j'espère être en santé et j'espère avoir la chance d'évoluer sur les terrains en 2024. Sachant que je suis aussi ambassadeur, j'ai été nommé ambassadeur des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 pour la Seine-Saint-Denis.
Ça consiste en quoi, ce rôle d'ambassadeur pour les Jeux?
Alors, c'est intervenir beaucoup dans les écoles, dans le département, inciter nos jeunes à faire du sport, leur faire comprendre, leur faire prendre conscience qu'en 2024, si de là à 2024, ils travaillent, ils se mettent au sport, s'ils sont bons, ils auront sans doute leur chance, peut-être, qui sait, de jouer en 2024 et leur faire comprendre que les Jeux 2024, que ce soit olympique ou paralympique, c'est pas une compétition exclusivement liée aux sportifs, c'est pas une compétition exclusivement fermée aux sportifs, c'est-à-dire que on aura besoin de bénévoles, on aura besoin de personnes autour qui s'engagent. On est en train de parler d'intégration, on est en train de parler d'écologie, on est en train de parler d'héritage, notamment avec le comité de candidature de Paris 2024, c'est-à-dire faire prendre conscience à la jeunesse, mais pas qu'on a un très beau territoire, le développer pour les Jeux, développer les infrastructures, développer l'économie, faire comprendre aux Français que l'obtention des Jeux, c'est pas coûteux, sachant qu'on a 95% des sites qui sont déjà existants, faire comprendre aux gens que ça va permettre de développer pas mal d'infrastructures, notamment dans le 93, en Seine-Saint-Denis, département trop souvent décrié et pointé du doigt malgré
d'où tu viens,
lui.
D'où tu viens d'ailleurs ? Tu viens de Rosny-sous-Bois, c'est ça ?
Absolument, c'est ça. Donc, j'interviens beaucoup dans les écoles, je suis beaucoup sollicité lorsqu'il y a des événements faits dans le département, donc... Je suis invité pour témoigner, pour parler de mon sport. Et puis, je suis invité en tant qu'athlète. Et c'est aussi une chance. J'en suis content, j'en suis ravi. Et je remercierai jamais assez M. Troussel et les responsables du département qui m'ont sollicité pour être ambassadeur des Jeux 2024.
Cet été, il y aura deux compétitions très importantes. Le mondial de cécifoot et la Coupe du monde de football. Est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir un doublé français, le foot à 11 qui remporte la Coupe du Monde et l'équipe de France de cécifoot qui remporte la Coupe du Monde.
Sincèrement, j'y avais jamais pensé. Vous êtes la première personne qui me fait penser à cela. Ce serait vraiment, bien sûr, magnifique. Ce serait quelque chose d'extraordinaire d'avoir ces deux équipes qui remportent leur tournoi, chacun de son côté. Et ce serait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que si tous les deux, on est champions dans notre discipline... on fêtera ça tous ensemble et ce serait quoi de plus beau et que peut-on espérer de mieux que ça.
Bon, en tout cas, on l'espère et on croise les doigts pour l'équipe de France, pour les équipes de France de foot qui joueront le mondial cet été. Donc, merci Yvan pour cette interview. Donc, on arrive à la fin, mais c'est le rituel maintenant. Il y a toujours une petite question à la fin pour l'invité. C'est une question qui nous est fournie par nos amis du podcast Passement de Jambes, P2J.
Ah, on appelle c'est des copains, d'accord.
Voilà, on appelle ça la question pupute, mais elle n'est pas très dure. Je pense que celle-là, elle n'est pas très dure.
J'essaie d'y répondre.
Combien d'équipes différentes ont remporté le championnat de France au XXe siècle ? Combien d'équipes différentes ?
En Ligue 1, première division.
En Ligue 1, c'est ça, oui.
Combien d'équipes différentes ? C'est une bonne question. Alors, je vais essayer de réfléchir. Donc, Paris, Marseille, Saint-Etienne, Lyon. Je dirais, allez... 16.
J'ai dit au 20e siècle ?
Oui.
Ah mince, c'est moi qui me suis trompé, je voulais dire au 21e siècle, c'est de ma faute.
Au 21e siècle, ouais. Je dirais, alors, il y a le PSG, il y a Lyon, il y a Montpellier, il y a Lille, ça fait 4, il y a Bordeaux, ça fait 5, il y a Marseille, ça fait 6... Il y a, je dirais, je pense que je suis pas loin de la vérité, je dirais, Auxerre c'était un petit peu avant, allez, je dirais dans le doute quand même 7 équipes.
7 équipes ?
Oui.
Ouais, il y en a 8, donc t'en as trouvé déjà pas mal, donc Lyon,
oui.
Bordeaux, oui. Marseille, oui. Lille, oui. Montpellier, oui. Paris,
oui.
Récemment Monaco,
ah,
la saison
oui,
dernière.
Ah oui, Monaco, effectivement.
Et au début du siècle, donc en 2001, le FC Nantes.
Ah, le FC Nantes, ah, je ne l'avais pas du tout.
Voilà, celui-là. Souvent on oublie Nantes, parce que c'était juste avant le règne de Lyon. Mm-hmm. Mais en tout cas, tu n'étais pas très loin. Bravo pour avoir trouvé déjà 6 équipes.
Merci.
Alors Yvan, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de beau dans la vie en général, dans le foot ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ?
Continuer à prendre du plaisir, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Me soigner, revenir bien sur le terrain parce que lors de l'Euro à Berlin, là, j'ai eu rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Donc, je me suis fait opérer il y a quelques semaines. L'opération s'est très bien passée. Actuellement, je ne suis plus avec des béquilles, donc je suis en rééducation à Saint-Maurice, donc dans un bon centre, et ça avance plutôt bien. Je vais commencer à courir à partir de février 2018 et je vais reprendre le foot en juin à peu près. Donc j'espère faire le mondial en juin, je croise les doigts. Ensuite, toujours être épanoui, toujours aller de l'avant, toujours être souriant, avoir autant de gens autour de moi qui m'entourent, des gens qui m'aiment pour ce que je suis, pour ce que je représente. Continuer à donner du plaisir aux autres, continuer à donner du plaisir à ma famille, à mes proches. Toujours être souriant, toujours avoir la santé, que les gens autour de moi aient la santé. Notamment toi, Abdallah, je te souhaite
merci beaucoup.
D'évoluer comme tu fais et garder toujours cet état d'esprit, d'être à l'écoute des autres, d'être toujours curieux. Et j'espère que le CCFoot va être davantage connu, va être davantage médiatisé. J'espère poursuivre dans mes différents projets, fonder une famille bientôt, qui sait. Être en forme pour les Jeux de 2024, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, continuer mes différentes implications, continuer à être épanoui et toujours être heureux, garder le sourire et que les gens me suivent toujours autant et voilà, que je m'éclate toujours autant et que je reste le même, vraiment.
Génial, bon, on te souhaite vraiment le meilleur, Yvan, et un bon rétablissement aussi. Et on espère que tu auras la chance de jouer le mondial. On te souhaite vraiment le meilleur à toi, à l'équipe de France, aux équipes de France. Et encore merci d'être venu dans Banquette pour parler CCFoot et de ce sport qui mérite à être un peu plus connu. Merci Yvan.
C'était un réel, réel plaisir. Vraiment plaisir. On a passé un bon moment ensemble. Et merci pour l'invitation. Et c'était un réel bon moment pour parler de foot.
T'en prie, allez. À bientôt Yvan. Merci.
Merci.
Merci à Yvan Wandji d'avoir accepté notre invitation. Banquette est une émission de nouvelles écoutes animée par Abdallah Swadri, réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, musique composée par Mehari, montée et mixée par Maxime Olivier à l'arrière boutique studio. Vous savez comment ça se passe maintenant, mais pour ceux qui nous auraient rejoints en cours de route, je vous explique. N'hésitez pas à réagir à cet épisode sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, a.k.a. la Sainte Trinité 2.0. Si cet épisode vous a plu, mettez des étoiles. Pour ça, rien de plus simple, allez sur Apple Podcasts ou iTunes pour ceux qui sont restés bloqués en 2008 et vous mettez 5 étoiles. Voilà, c'est simple. Et bien sûr, un grand merci aux banquettistes, toujours plus nombreux à nous suivre. Vous êtes au top. Continuez comme ça nous fait extrêmement plaisir. Quant à nous, on se retrouve donc dans 2 semaines avec un nouvel invité pour un nouvel épisode de Banquette. Allez, à bientôt !